Le parcours ce matin change un peu, vous avez peut-être vu dans la presse. On a décidé d'allonger le parcours parce que le 5 décembre, il nous paraissait trop court. Donc on a fait une boucle supplémentaire.
Bonjour, le reportage que nous allons diffuser a été réalisé le 17 décembre 2019 lors de la manifestation contre le projet de réforme des retraites.
La CFDT dans la rue.
Aujourd'hui, oui.
Ça signifie quoi?
C'était important, c'était pour montrer le... plutôt contrer l'attitude du gouvernement qui n'a pas accepté du tout les perches lancées par la CFDT, qui accepte quand même de négocier, qui a une attitude plutôt réformiste, plutôt que d'aller contre tout, a priori. Et là, le gouvernement n'a pas du tout saisi cette chance de pouvoir avancer sur une réforme que la CFDT voulait. Pas tout à fait dans les formes que le gouvernement met en place, mais il n'a pas voulu du tout saisir cette perche, quoi. Donc aujourd'hui, on est très en colère vis-à-vis du gouvernement, surtout de Macron, qui veut casser donc, c'est les corps intermédiaires. Peut-être qu'il veut faire sans, mais ce n'est pas du tout cette attitude qui va permettre de faire avancer les affaires. Et surtout de donner peut-être des arguments à ceux qui sont contre tout, et peut-être de créer une société de blocs les uns contre les autres, plutôt que de vivre ensemble. Quoi.
Vous avez cette impression que la CFDT a été manipulée?
Manipulée, non, parce qu'il y a une réaction aujourd'hui. Non, elle n'est pas manipulée, parce qu'elle sait se tenir aussi à ses revendications. Parce que cette réforme, on la voulait depuis longtemps, cette réforme des retraites. Et là, il y avait des pistes lancées par le gouvernement qui pouvaient être intéressantes. Et en fait, ben, ça n'a pas marché, parce qu'il y a eu, entre autres, ce point sur l'âge pivot, que la CFDT, entre Laurent Berger, avait dit toujours que c'était la ligne rouge. Le gouvernement n'a pas voulu... à lancer cette idée-là, et c'est vraiment dommage, parce qu'on est aujourd'hui dans la rue, je ne sais pas ce que ça va donner, ça crée des crispations un peu partout, alors que justement, notre attitude syndicale veut justement créer de l'apaisement, et ce n'est pas du tout l'attitude du gouvernement qui le permet actuellement.
Est-ce que négocier en amont, c'est une bonne stratégie, au final?
Ah bon, on y croit toujours, la CFDT, on y croit toujours, parce qu'autrement, quand on arrive à des conflits, à des grèves, ou des situations comme ça, on est toujours... une attitude beaucoup plus radicale. Quand on peut négocier, rencontrer, moi j'essaie de faire aussi dans mon entreprise, rencontrer nos responsables et on peut avancer toujours ensemble, quand même. Chacun a son attitude et ses revendications, mais l'essentiel c'est d'arriver à travailler ensemble, d'aller sur des axes où on peut s'y retrouver quand même. Autrement, on ne va pas se bagarrer toute sa vie non plus.
Tu parlais de stratégie.
Ah, de stratégie, oui, il y a des fois on peut avancer quand même. Entre autres sur les réformes de retraite, jusqu'à maintenant, la CFDT a eu des attitudes de certaines avancées quand même.
La pénibilité, c'est quand même un leitmotiv de la CFDT. On a obtenu quelque chose, il y a eu un retour en arrière, il y a eu des critères qui ont été supprimés. Maintenant, ces critères reviennent d'actualité. Je pense que la pénibilité, par exemple, c'est un critère qui est important et c'est vraiment un facteur de justice sociale quelque part. Hein. Si vous êtes cadre ou si vous êtes carreleur, vous n'avez pas la même espérance de vie, vous n'avez pas la même fatigue. Donc c'est logique que cette différence-là soit intégrée dans votre retraite.
Également aussi sur les carrières longues, la CFDT a essayé d'avancer là-dessus aussi. Et tout le monde, ça a été possible. On ne sait pas actuellement justement dans cette réforme comment ça va être tenu pris en compte aussi. Il y a des petites avancées, c'est vrai, c'est jamais, pour certains, c'est jamais assez, mais ça permet quand même certaines avancées. Il y a forcément une histoire de financement, mais il faut voir aussi d'où viennent les recettes. Tous les cadeaux, si on peut des cadeaux fiscaux qui ont été faits, c'est des recettes en moins dans les caisses. Il faut peut-être revoir ça aussi.
On voit aussi que les moyens donnés pour tout ce qui est contrôle, pour tous les contrôles fiscaux, les moyens diminuent. On voit que la fraude fiscale augmente. On voit que les grands groupes, les GAFAM, vous savez, les Google, Facebook et autres, on voit qu'ils sont très peu taxés. Donc il faut aussi quelque part dire s'il y a des dépenses, mais il y a aussi des gens qui contribuent au bien-être global de la société.
Et la rencontre demain.
Et encore demain, on verra si le gouvernement entend un peu ce qui se passe. On entend un peu comme aujourd'hui, il y aura déjà ça commence à venir, il y aura du monde dans la rue. On peut penser aussi quand même que le gouvernement va peut-être lâcher peut-être quelque chose.
Tout le monde là, je pense que ça va faire réagir le gouvernement et que ça va être un peu un levier pour faire évoluer les choses quelque part.
Et je pense aussi montrer que les syndicats comptent encore un peu auprès des gens. Parce que beaucoup disent les syndicats maintenant ils ne valent plus rien, il n'y a que 8% de syndiqués. Bon, oui, c'est vrai, il y a peut-être plus de 8% de syndicats, mais il y a quand même beaucoup de sympathisants, des gens qui suivent un peu les mots d'ordre comme aujourd'hui. Donc, et de toute façon, il y a beaucoup plus d'adhérents dans les syndicats que dans les partis politiques. Donc la CFDT, elle toute seule, fait bien plus d'adhérents
que tous les adhérents. 900 000 adhérents, c'est quoi? 800 000. Et la vue en marche, c'est quoi?
Vous représentez
les enseignants du primaire et du secondaire, et on est plusieurs enseignants.
Plusieurs enseignants grévistes sur le secteur.
Vous êtes proche d'un syndicat ?
Moi, je suis syndiquée au SNUIP, mais il y a des gens sur plusieurs.
Et il y a plusieurs, voilà, c'est ça.
Et des non-syndiqués aussi.
D'ailleurs, il y a une majorité de non-syndiqués.
Qui font grève aussi ?
Oui, alors ça dépend des écoles. Nous, par exemple, en maternelle, on est fermé.
Donc 9 classes fermées pour la troisième fois, c'est pas mal. Et puis les écoles sont toutes touchées par le mouvement. Il y en a qui sont plus ou moins touchées, mais...
Il y a tout le secteur périscolaire aussi qui est touché. Donc des gens qui sont quand même aussi dans des situations pas toujours simples et qui se mobilisent pour le mouvement. Voilà.
Concrètement, pourquoi vous êtes là ?
Parce qu'on veut un système plus solidaire que celui qu'on nous propose là. Voilà. Qu'on est assez inquiet par la réforme qu'ils veulent mettre en œuvre et que on est impacté personnellement, mais aussi pour nos élèves, nos enfants. On ne souhaite pas du tout la mise en place de ce projet, donc on est là pour son retrait.
Vous avez fait une projection, enfin si le projet passait, quel sera le niveau de votre retraite ?
Les enseignants, on perd entre 300 et 900 euros.
Quand on traduit,
je crois que c'est autour 1300 euros, je crois.
Je
vais peur de dire des bêtises. Mais en tout cas, on sait que c'est pas en notre faveur. La réforme des retraites, c'est pas en notre faveur et que ça risque...
Mère de 3 enfants. Enfin voilà, il y a plein de points qui posent vraiment problème. Donc voilà.
Vous avez quel âge ?
Moi, je suis née en 75.
76.
J'ai un enfant de 2004. C'est les premiers à être complètement concernés par la réforme aussi. Non, mais... Enfin, même si on était de 73, je pense qu'on serait là quand même.
C'est vraiment un projet qu'on défend, une façon de voir la société, en fait, et de voir la société dans laquelle vont vivre nos enfants. Donc c'est pour ça qu'on se bat, et qu'on se bat souvent... pas que pour la réforme des retraites, mais aussi pour l'éducation nationale et faire en sorte qu'elle ne soit pas détruite, le service public en général, parce qu'on pense aussi à tous les soignants, à tous les métiers comme ça qui sont au service du public et à qui on touche, tout ce qui est PMI, tout ce qui est CAF, tout ce qui est service public, en fait, et commence à être détruit et, petit à petit, en fait, donc ça, on n'est pas pour.
C'est vous qui avez donc dessiné cette banderole.
Des gueux pour une retraite de gueux.
Il y a une séance de brainstorming, non ? Pour arriver à ce slogan.
Ah bah, oula. On est en matière.
Et celle derrière, là, aussi. Pour une retraite solidaire et juste.
Mais c'est moins marketing.
C'est moins marketing, peut-être, ouais.
Vous n'êtes pas là pour regarder les manifestants.
Non, effectivement, on n'est pas là juste pour les regarder. On est là pour participer aussi. Et puis, soutenir le mouvement de grève aussi. Soutenir, c'est pour nous aussi qu'on est là, hein, pour notre avenir à nous. Et les, moi, j'en ai pas, mais ceux qui sont parents défendent l'avenir aussi de leur enfant. Et puis, c'est bien aussi de soutenir tout le monde, quoi, parce que si tout le monde se rassemble et se soutient, au moins, voilà quoi.
C'est la première fois.
Pour moi, c'est la première fois. Pour les autres qui sont là, c'est pas la première.
25e fois. Pas loin de 30 même.
Pas loin de 30
participations. Ça fait un an que je participe.
Nous, on fait partie des Gilets jaunes, donc on est là.
Gilets jaunes, c'est oui. Simple citoyen.
Gilets jaunes, c'est le peuple, quoi, finalement. On est tous...
On les porte même plus, parce que ça veut plus rien dire, le jaune. On est là parce qu'on a besoin de vivre aussi. On est jeunes, enfin...
Donc vous, pourquoi c'est la première fois ?
En fait, c'est surtout que... Moi, en fait, je fais partie des gens défaitistes qui se disent que, en fait, ça sert à rien. Enfin, à la base, je me disais, de toute façon, le gouvernement, ça a toujours été la misère. En fait, on n'a jamais écouté le peuple. Mais en fait, si tous les gens pensent comme moi, malheureusement, il n'y aurait personne dans les rues et il n'y aurait personne pour faire bouger les choses. Donc, c'est vrai qu'au final, il faut essayer d'ouvrir les yeux et se rendre compte qu'on est tous dans le même bateau et que rester chez soi, malheureusement, ça ne fera pas avancer les choses. Donc, au moins, essayer de sortir et au moins essayer de comme je disais, de soutenir et puis d'être là pour montrer aussi que Bah qu'on ne se laisse pas faire, ouais, voilà, qu'on essaye de défendre notre opinion. Mais ouais, voilà, c'est la galère depuis très longtemps, donc c'est vrai que les gens, au début, assez défaitistes comme moi, se disent que ça sert à rien, mais au final, il n'y a pas assez de personnes pour montrer qu'on veut s'en sortir, que c'est la galère, et que, bah voilà, malheureusement, il faut être debout tous ensemble, et puis pas se laisser faire, quoi.
Qu'est-ce que vous faites ?
Eh bah, ben, je suis étudiante. Donc j'ai travaillé pendant très longtemps parce que je viens d'une famille, de classe, non considérée comme pauvre. Quand on voit la moyenne des revenus français, on peut dire que je viens d'une famille du coup d'origine pauvre. Et donc j'ai arrêté mes études pour travailler et aider, subvenir aux besoins de ma famille, enfin ma maman, tout ça. Et là du coup je reprends mes études pour justement envisager un avenir un peu meilleur que celui qui m'attend en restant... En restant à travailler en usine, à détruire la santé, le dos, le moral, pour gagner une misère. Donc je reprends mes études et ça s'annonce pas tellement plus facile non plus, mais voilà.
Maintenant, je viens vers vous.
Je suis énervée.
Vous avez un instrument de musique ?
Oui, pour faire du bruit, pour qu'on nous entende. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de pas être écoutée, il y en a marre de vivre comme on le vit au jour d'aujourd'hui. Et il y en a marre, quoi, enfin tout simplement. Donc ouais, je suis dans les rues, j'ai un petit garçon de 3 ans et j'ai envie qu'il ait un avenir, j'ai envie qu'il ait quelque chose de raisonnable, qu'il puisse avoir une retraite, parce que enfin moi je suis même pas sûre d'en avoir, donc lui, c'est encore pire. Et puis bah voilà quoi, enfin nous on bosse, on travaille pour pas finir nos fins de mois, pour compter nos sous, enfin non, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal, quand je vois les payes des ministres et tout, eux ils ont des retraites, ils ont tout ce qu'il leur faut, et nous on vit dans la galère, voilà.
Ce qui ne devrait pas exister, c'est la différence entre les plus grosses richesses, les plus grosses fortunes de France et les petites gens, en fait. Il ne devrait pas y avoir autant de différence. Un ami à moi, en fait, avait vu une étude sur le fait que un homme avec un salaire moyen de 3000 euros par mois et 40 ans de carrière, c'est une semaine dans la vie des plus grosses fortunes, tout ça. Enfin, c'est affreux de se dire que nous, on travaille 40 ans, toute une vie, pour au final que ça représente qu'une pauvre petite semaine dans la vie des plus grosses fortunes. Et il ne devrait pas y avoir autant de différences, autant d'inégalités entre les plus riches et les plus pauvres.
On entend bien qu'il faut faire des études et qu'il faut faire attention pour ne pas divorcer. Il faut faire attention, tout ça, il ne faut pas toucher le SMIC et machin. Mais les trois quarts des gens qui sont là sont SMICards. Donc voilà, aidez-les et arrêtez de polluer l'air pour rien dire, quoi, tout simplement.
Les footballeurs méritent leur salaire ?
Oh, non, il n'y a pas que malheureusement.
Bah, c'est vrai que c'est ça aussi l'inégalité, de se dire que... Après, je peux comprendre que voilà, ils sont médiatisés, ils ont forcément une pression. Enfin voilà, on peut imaginer énormément de raisons que eux pour justifier leur salaire. Mais voilà, moi aussi, j'aimerais bien être payée autant qu'eux pour exercer une passion. Mais voilà, quoi, c'est aussi un exemple d'inégalité, de différence énorme entre certains milieux, certains métiers, et ça devrait pas être comme ça, quoi. On devrait être payé à la hauteur de nos efforts, ce qui n'est pas le cas.
Ce serait quoi un bon salaire pour vous ?
Bah, pour moi, justement, qui viens d'un milieu où 1100 euros, c'est à peu près le minimum, moi, franchement, si j'avais ne serait-ce que 2000 euros par mois net, mais je serais pas riche, mais ça me changerait la vie, quoi.
Ça mettrait du beurre dans les pattes, dis donc.
J'entends certaines personnes manifester et dire « Ouais, je gagne 3000 euros par mois, je m'en sors pas. » Je peux comprendre que dans certaines régions de la France, Paris, c'est très cher et tout. Mais moi, ces 3000 euros, je les ai même pas. Et pour moi, ce serait un rêve, en fait, d'avoir cet argent-là. En sachant que moi, ouais, à l'époque où je bossais en usine, mais c'était des semaines de 45 heures, je faisais des heures sup sans arrêt, j'avais pas de vacances, fallait tout le temps remplacer du monde. On est debout sans arrêt. On est en campagne, on est debout, on court, on n'a pas de pause, on a que 10 minutes de pause. Et désolé pour le terme, mais on en chie vraiment, quoi. Et malheureusement, à l'époque, je gagnais 1300 euros net, alors que franchement, j'étais cassée à la fin de ma semaine, j'avais plus de vie sociale, j'avais plus rien, parce que ma vie, c'était le travail, juste pour pouvoir survivre en plus.
Est-ce que vous pensez qu'il faut faire une trêve pendant la période des fêtes ?
C'est vrai qu'en fait, quand on revoit dans l'histoire les soldats pendant la guerre qui s'alliaient pendant les fêtes de Noël, parce que c'est quand même quelque chose d'hyper symbolique, en fait. Donc, techniquement, on devrait faire la trêve avec nos ennemis, entre guillemets. Mais voilà, des gens comme nous, par exemple, moi, je ne peux pas fêter Noël parce que je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas pu faire de cadeaux. Pour moi, Noël, en fait, ça représente un moment magique, mais que je ne peux pas vivre pleinement parce que je n'en ai pas les moyens. Donc pour moi, personnellement, cette année, en tous les cas, ou même l'an dernier, Noël, ça ne représente pas grand-chose parce que malheureusement, je n'ai pas les moyens de le fêter comme la plupart des gens voient Noël, quoi. Donc trêve ou pas trêve, malheureusement ça changera rien. Après oui, j'avoue que si les gens arrêtaient de manifester pendant la semaine des périodes de fête, je pense pas que ça changerait grand chose au niveau du gouvernement, quoi. Donc voilà.
Non, moi je suis pour continuer. On lâchera rien. Il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher parce que eux ne lâchent rien. Donc je vois pas pourquoi nous on lâcherait.
Pourquoi le constat, les gilets jaunes, ça sert à rien?
Parce que on est plus que des gilets jaunes à la finale. Enfin, les gilets jaunes, ça a été un mouvement, mais au jour d'aujourd'hui, regardez le nombre de gilets jaunes qu'il y a dans la rue et le nombre de gens qu'il y a.
Bah, le problème surtout, c'est qu'en fait, à la base, les gilets jaunes, c'était un beau mouvement, en fait, c'était censé être un mouvement de révolte pour tous se battre, être ensemble et tout. Et en fait, maintenant, le gouvernement, les médias ont fait que les gilets jaunes, c'est limite des extrémistes, quoi. T'es gilet jaune, t'es forcément dans l'attaque, dans la violence. Oh mon Dieu, un gilet jaune. Enfin non, en fait, à la base, les gilets jaunes, c'était justement pour se soulever, essayer de garantir un meilleur avenir. Résultat, aujourd'hui, les causes sont différentes qu'à l'époque, parce qu'à la base, le tout premier mouvement, c'était pour l'augmentation du prix du carburant. Maintenant, en fait, c'est une dégringolade générale, quoi. C'est les retraites, c'est les salaires, c'est... Enfin, les gens se sont rendus compte que pour une cause, on pouvait se battre. Du coup, bah, autant se battre pour tout, quoi, en fait. Mais c'est vrai que maintenant, gilet jaune, c'est associé à... Un gilet jaune, maintenant, c'est devenu un signe de rébellion, de violence, quoi. Alors que pas du tout, hein.
Donc, on ne les porte plus. On ne les porte plus et on est quand même là et on manifeste. On va sur les ronds-points, on bloque, On est là et on lâchera pas et on continue jusqu'à ce que...
Est-ce que c'est pas le fait aussi que les gilets jaunes voulaient pas avoir de représentants?
On n'en veut toujours pas. Hein. Quand on voit la
Est-ce que c'est pas un problème, non?
Si, c'est un gros problème, parce qu'on n'en veut pas. Mais au-delà de ça...
On s'adresse à qui, alors?
Bah au peuple. Bah c'est la parole du peuple qu'il faut écouter.
On distribue aussi des tracts.
C'est ça le souci. Et c'est ce que nous on veut, c'est que la parole du peuple soit écoutée.
On peut pas faire entrer tout un peuple.
Ouais, mais faire des référendums et que ce soit le peuple qui vote.
Qu'est-ce qui vous pique en ce moment pour être dans la rue?
Ce qui nous pique en ce moment, c'est qu'ils sont en train de démonter notre hôpital public. Ça veut dire arrêter de prendre en charge plein de gens, arrêter de prendre en charge nos enfants, arrêter de prendre en charge tous nos patients graves. Parce que le système de soins, à l'heure actuelle, y a du privé qui fait en gros le tout venant. Un peu de patients graves, mais pas beaucoup, parce que c'est pas ce qu'ils rapportent. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on nous demande de faire des soins, mais de rapporter de l'argent. Du coup, c'est démanteler le système public sans avoir trouvé de solution pour l'instant avec le système privé pour assurer des soins pour tout le monde.
Vous n'êtes pas trompé de manif?
Non, c'est pas trompé de manif. Les retraites, ça concerne tout le monde, mais c'est aussi la journée où l'hôpital se mobilise. Et la manifestation pour l'hôpital débutera à midi. Et je pense que c'est important qu'on soit là, et pour le système général de notre société, et pour le système hospitalier, parce que ça concerne tout le monde.
J'ai un tract qu'on m'a remis.
Ouais.
Je demande à travailler au moins jusqu'à 67 ans.
Travailler jusqu'à 67 ans, vous savez, monsieur, moi je suis infirmière anesthésiste. Je plains les gens que je vais devoir piquer à 67 ans, toute tremblante, et à leur faire encore des anesthésies en étant vigile au bloc opératoire. Voilà.
On aura traité le Parkinson d'ici là, non?
Avec un peu de chance. En tout cas, je vous le souhaite.
Je veux pouvoir être licencié plus facilement, qu'il s'agisse d'une incapacité due à un accident du travail ou à une diminution des bénéfices de mon entreprise.
Je ne sais pas si on peut souhaiter plus de précarité dans notre statut. Ça me paraît étonnant.
Je souhaite que mes heures supplémentaires soient moins bien rémunérées et je suis d'accord pour qu'elles ne me soient payées que tous les 3 ans.
Alors, il faut savoir qu'à l'hôpital public, on nous paye déjà peu d'heures supplémentaires. On en fait énormément qui ne sont pas payées. Donc nous, au contraire, on aimerait bien de temps en temps gagner un peu d'argent parce que notre indice est quand même gelé depuis de nombreuses années et que notre salaire n'a pas augmenté. Par contre, le coût de la vie, il ne s'est pas gêné.
Je suis d'accord pour que mes dates de départ en congé puissent être légalement modifiées moins d'une semaine avant mon départ.
Bah évidemment, de toute façon, on était des bonnes sœurs il n'y a encore pas si longtemps, donc pourquoi on aurait des droits maintenant ?
Je suis favorable à l'étouffement des services de l'inspection du travail.
Celle-là, elle est encore meilleure que les autres, je crois.
Ce reportage a été réalisé le 17 décembre 2019 lors de la manifestation contre le projet de réforme des retraites. Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont librement exprimés.